Ah, et tout de suite, on va recevoir comme il se doit Michel, à moins qu'il y ait un générique. Je crois qu'il y avait une petite surprise.
La terre, elle brille en fait, elle est d'un bleu brillant, elle luit.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb, qui découvrons des terres nouvelles, qui jusqu'à présent n'étaient que des petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information jusqu'à présent.
Self-sustaining civilization on Mars, forward to the greatest adventure ever.
Voilà, un générique réalisé par Nicolas. Voilà, il y a deux Nicolas, donc Nicolas, c'est Nicolas. Déjà, bonjour Michel, hein, c'est vrai, parce que là, on est encore voilà, sur le coup du
bonjour
générique.
Bonjour Joël.
Voilà, donc l'association Constellation à The Galaxy. Alors, avant que vous lanciez sur votre chronique, voilà, donc... un petit habillage sonore comme celui-ci que vous avez validé, j'espère, hein, Michel. Hein.
Oui, oui, un peu bon. Tard hier soir. Et finalement, ça tombe assez bien parce que finalement, ça nous permet d'ouvrir la sixième saison des Chroniques Astro. La première ayant été diffusée il y a 5 ans, presque jour pour jour, le 24 septembre 2014. En toute logique, ça devrait être donc la 61e chronique, mais nous avons eu quelques petits incidents de calendrier, notamment en raison de mes déplacements à l'étranger, qui en ont fait sauter deux en avril 2017 et septembre 2017. Ce qui, finalement, pas grand-chose sur toute la période. Mais comme en août 2015, on avait réalisé une série de 3 rendez-vous de suite la même semaine à l'occasion d'une mission à l'Observatoire du Pic de Midi, le compte s'y retrouve finalement. J'espère juste que nos auditeurs ne se lassent pas de mes passages à l'antenne.
Voilà, mais non, ils ne se lassent pas. Et puis, voilà, les chiffres, voilà, on leur donne l'importance qu'on veut. Ce qui est important, c'est cette fidélité. Voilà, tout ce travail réalisé. Allez, donc, pour ouvrir justement cette chronique astro, donc numéro 59, on y tient à ce chiffre, ou 61, voilà. Mais bon, ça, on va faire référence à ce que vous venez de dire juste à l'instant. Allez, vous allez nous parler de l'actu et la Lune qui réussit aux Chinois, mais pas aux Indiens.
Oui, alors ces derniers mois, les 2 derniers mois, nous avions parlé de la sonde indienne Chandrayaan 2, lancée le 22 juillet, qui s'est mise en orbite lunaire le 20 août. Début septembre, nous attendions les étapes importantes suivantes de cette mission, avec la séparation entre l'orbiteur d'environ 2,5 tonnes et l'atterrisseur Vikram d'environ 1,5 tonnes, prévu le 2 septembre, et qui s'est déroulé sans problème. Malheureusement, sa lente descente vers la surface lunaire s'est achevée par un accident le 6 septembre, car le contact a été perdu avec lui 2 minutes avant l'arrivée au sol, à seulement quelques centaines de mètres d'altitude, alors que la séparation de l'orbiteur s'était faite à plus de 100 km. Cette perte de communication s'est produite alors que Vikram avait commencé à dévier notablement de sa trajectoire prévue depuis environ 3 km d'altitude. Dans un premier temps, l'agence spatiale indienne, ISRO, a pensé qu'il s'était crashé. Mais dans les jours suivants, le 10 septembre pour être précis, l'orbiteur a détecté la présence de Vikram dans la zone d'atterrissage prévue par sa signature thermique enregistrée avec une caméra infrarouge. Il semble qu'il soit en un seul morceau, mais aucune image ne peut être prise car il est dans une zone très sombre, proche du pôle sud de la Lune. Depuis lors, l'ISRO essaye de rétablir le contact avec l'atterrisseur, en vain jusqu'à présent. On est donc sur le point de décider que le dispositif au sol, donc Vikram, et aussi un petit rover Pragyan de 25 kg, sont perdus car ces appareils devaient être alimentés par des panneaux solaires pendant une durée de 15 jours, la durée d'un jour lunaire. Ils sont maintenant plongés dans la nuit lunaire où la température descend jusqu'à moins 230 degrés et ils n'étaient pas conçus pour résister à ce froid intense. Il y a donc très peu de chances de pouvoir établir un contact quand le soleil les alimentera de nouveau début octobre.
Et pour la Chine alors, Michel ?
Ah, il s'agit de nouvelles de la sonde lunaire Chang'e 4, dont j'avais parlé en début d'année, car elle avait réussi un exploit inédit en se posant le 3 janvier dernier sur la face cachée de la Lune, ce qui avait nécessité au préalable, pour pouvoir communiquer avec elle, la mise en place d'un satellite de communication baptisé Keqiao par l'agence spatiale chinoise, la CNSA. Cette sonde d'environ 1,2 tonnes comprend aussi un petit rover à 6 roues de 140 kg, un peu le format d'une grosse tondeuse, baptisé U2-2, c'est-à-dire le lapin de jade, hein, U2. Je fais une petite parenthèse pour signaler que ce duo, Chang'e, c'est-à-dire la déesse de la Lune, et U2 font référence à une légende chinoise à propos de la Lune, où l'on peut voir la silhouette d'un lapin dessiné par les mers sombres pendant la pleine Lune. Légende évoquée par Jean-Claude Amezen dans son émission hebdomadaire sur les épaules de Darwin du samedi matin sur l'antenne de France Inter les 7 et 14 septembre derniers. Outre des aspects intéressants sur les connexions entre les civilisations, car des légendes similaires existent en Asie, ailleurs par exemple en Inde et au Japon, mais aussi dans les cultures précolombiennes d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, ces émissions m'auront au moins permis de connaître enfin la bonne prononciation de Chang'e et non pas Chang'e comme je l'avais dit dans les précédentes chroniques. Mais revenons à la mission lunaire. Chang'e s'est posé dans l'un des plus grands cratères lunaires avec ses 180 km de diamètre, baptisé Von Karman, du nom d'un physicien hongrois qui a déterminé scientifiquement le début de l'espace, appelé ligne de Karman, et situé à environ 100 km d'altitude sur Terre. L'exploration de cette région par U2-2 a commencé dès le 3 janvier, avec sa descente de la rampe d'accès au sol lunaire seulement une douzaine d'heures après l'alunissage. Son autonomie est très limitée puisqu'il n'est pas censé parcourir plus de 10 km durant les 3 mois de sa durée de vie prévue, soit 3 jours et 3 nuits lunaires. Cependant, sa survie se prolonge et il est toujours en activité. Cet été, alors qu'il ne s'est éloigné que d'environ 300 mètres, il a pris des images d'une substance inhabituelle à la surface de la Lune qualifiée de gel par l'agence chinoise. Selon les experts, il est probable qu'il s'agisse d'une sorte de verre naturel produit par un impact météoritique, car il est à proximité d'un cratère dans la région de ses éjectas, c'est-à-dire des dépôts de la matière éjectée lors du choc, qui mêle à la fois des constituants du sol et de la météorite. On connaît ce type de verre sur Terre, produit par d'anciens impacts d'astéroïdes, notamment ce qu'on appelle le verre libique, qui, comme son nom l'indique, provient du désert libique, et dont la teinte jaune correspond à la fonte du sable saharien pour former ce cristal naturel lors du choc. Plus près de nous, il existe aussi une belle variété verte, plus ou moins transparente, avec laquelle on produit même des bijoux, et baptisée Moldavite, car trouvée essentiellement en Bohême et en Moravie, deux régions de la République tchèque. Elle correspond à un impact situé au nord du Danube, en Bavière, visible par un cratère fossile de 24 km de diamètre, baptisé Nördlinger Ries, près de la ville de Nördlinger, comme l'indique son nom. U2-2 n'a pas pu analyser plus précisément cette roche, car il a dû suspendre ses opérations pour sa 9e nuit lunaire, et il vient tout juste de se réveiller ce week-end avec le retour du soleil. Je rappelle qu'il est sur la face cachée, et donc que son ensoleillement est très différent de celui de Vikram, qui est plongé pour le moment dans la nuit. On aura donc probablement plus d'informations sur cette découverte dans les prochains jours ou les prochaines semaines.
Alors toujours sur l'actualité, un petit point sur les projets de la NASA et de l'ESA.
Oui, j'ai eu l'occasion de lire une interview récente réalisée par la revue Ciel et Espace du numéro 2 de la NASA, Thomas Zurbuchen, j'aurais dû pas traîner à le dire, dans laquelle il dresse un récapitulatif des principaux projets de l'agence américaine pour les prochaines années. Un des principaux, estimé à 5 milliards de dollars, consiste à collecter des échantillons de sol martien et à les rapporter sur Terre, où ils pourront être analysés avec toute la technologie disponible, bien plus considérable que les petits laboratoires embarqués sur place par les précédentes missions. La première étape, la collecte, devrait être réalisée par un rover similaire à Curiosity, appelé Sample Fetch Rover, que doit déposer à la surface de la planète la mission Mars 2020, qui sera lancée l'été prochain. Je rappelle à nos auditeurs que pour profiter d'une distance minimum entre la Terre et Mars, c'est toujours à l'approche de l'opposition de Mars que sont lancées les missions vers cette planète, et la prochaine opposition aura lieu le 13 octobre 2020. La deuxième étape, le retour des échantillons vers la Terre, appelée Mars Sample Return, sera une coopération de la NASA avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Mais à ce jour, elle ne semble ni complètement financée ni planifiée. Les échantillons martiens attendront donc quelques années, au moins deux, ce qui est le rythme des oppositions martiennes, avant d'embarquer sur une petite fusée pour leur vol vers nous. À propos de Mars, l'ESA développe aussi ses propres missions, baptisées ExoMars. La première en 2016 avait été un demi-succès, car si l'orbiteur TGO, destiné à analyser les gaz de l'atmosphère, s'est parfaitement satellisé autour de la planète, le 19 octobre 2016, on se souvient que l'atterrisseur baptisé Schiaparelli s'était crashé 3 jours plus tôt, et que la NASA avait publié des images du site de la catastrophe prise par l'un de ses orbiteurs martiens. La première tentative d'atterrissage en douceur sur Mars de l'Europe était donc un échec, mais cela reste dans la moyenne des résultats, car presque la moitié de ces missions périlleuses ont été ratées, toutes nationalités confondues. La deuxième étape était prévue pour l'opposition de 2018, mais comme il y avait un risque de ne pas être prêt à temps, elle était reportée à l'opposition suivante et se nomme donc ExoMars 2020. Elle devrait décoller en juillet prochain pour atteindre la planète rouge en mars 2021. Son atterrisseur a été fourni par Roscosmos, l'agence spatiale russe, dans le cadre d'une coopération, et se trouve baptisé Kazatchok, c'est-à-dire Petit Cosaque. Assurant la phase de freinage finale, il doit permettre au rover ExoMars 2020 d'environ 300 kg, et lui développé par l'ESA, de descendre en douceur à la surface de la planète pour y forer jusqu'à 2 mètres de profondeur afin d'y prélever des carottes du sous-sol et y rechercher des marqueurs biochimiques. Malgré l'absence de tout résultat probant jusqu'à présent, nous n'avons toujours pas renoncé à trouver des formes de vie primitives sur Mars, comme des bactéries par exemple. Ce scénario est néanmoins remis en cause car il y a encore un souci avec les parachutes assurant la phase précédente du freinage qui doivent s'ouvrir successivement le premier de 15 mètres de diamètre à environ 20 km de la surface alors que l'engin foncera encore à 1200 km/h après son freinage atmosphérique initial et le second de 35 mètres de diamètre, le plus grand jamais utilisé sur Mars, doit se déployer quand la vitesse sera devenue subsonique. Malheureusement, les deux derniers tests effectués sur Terre en mai et en août se sont soldés par des échecs, les plus grands parachutes s'étant déchirés et les suspentes rompues, semble-t-il pour des problèmes de couture trop fragiles et de pliage très délicats. De nouveaux tests doivent avoir lieu en décembre 2019, puis en février 2020, et décideront du sort de cette mission européenne qui court le risque de se voir encore reportée de 2 ans supplémentaires.
Et pour les autres projets de la NASA, quelques infos ?
Alors pour ce qui concerne l'exploration du système solaire, un projet vise à renouveler l'exploit de Cassini-Huygens qui avait posé en 2005 un atterrisseur fixe sur Titan, le plus gros satellite de Saturne, particulièrement intéressant car il possède une atmosphère riche en méthane, produisant un cycle comparable au cycle de l'eau sur Terre, ce qui permet de penser qu'il est peut-être analogue à la Terre primitive, possédant des composants prébiotiques, c'est-à-dire qui précèdent l'apparition d'une forme de vie. Cette fois, l'ambition serait d'explorer une zone plus large en déployant des drones dans l'atmosphère. Baptisé Dragonfly, un vol du dragon, ce projet a été retenu en juin dans le cadre du programme New Frontiers de la NASA visant à explorer le système solaire et il pourrait se concrétiser vers 2024-2025. Dans le domaine de l'astronomie, le projet phare reste le lancement du nouveau télescope spatial JWST, ce qui veut dire James Webb Space Telescope, qui doit remplacer Hubble en fin de vie et devrait le surpasser notablement avec son miroir de 6,50 m au lieu des 2,40 m actuels. Cette mission est très délicate car le miroir constitué de plusieurs cellules hexagonales doit se déplier après son lancement car aucune fusée ne dispose d'un espace suffisant pour l'accueillir en un seul bloc. Et tout ceci se passera à des distances ne permettant aucune intervention humaine, contrairement aux réparations répétées de Hubble par les astronautes des navettes spatiales en 1994, 97, 99, 2002 et 2009. En effet, ce nouveau télescope spatial doit être placé à un point de Lagrange, position stable où l'attraction de la Terre et du Soleil s'équilibre, à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, un emplacement actuellement totalement inaccessible pour une mission humaine. Après des reports successifs, le lancement du JWST est prévu pour le 21 mars 2021. Et on croise les doigts pour que ça puisse avoir lieu. Et ensuite, il y aura un autre télescope spatial, WFIRST, pour Wide Field Infrared Survey Telescope, ce qu'on peut traduire par télescope infrarouge à large champ. Ayant un miroir de 2,40 m, analogue à celui de Hubble, il se distingue par le fait qu'il observera dans l'infrarouge et sur un champ très large, à peu près 100 fois plus grand que celui de Hubble. J'ai déjà dit ici que c'est depuis l'espace qu'on peut principalement observer dans l'infrarouge, car notre atmosphère n'est pas transparente dans ses longueurs d'onde. Et ce projet fait donc suite à une série de télescopes de ce type, comme Spitzer, lancé en 2003 par la NASA, qui n'avait qu'un miroir de 85 cm, trois fois plus petit, ou Herschel, lancé en 2009 par l'ESA, qui possède un miroir plus grand, de 3,50 m, mais qui a cessé de fonctionner en 2013. Il y a plusieurs raisons pour observer dans l'infrarouge. Dans ces longueurs d'onde, on peut passer au travers des nuages de poussière, ce qui permet par exemple de voir le cœur de notre galaxie, la Voie lactée. Pour mieux connaître l'univers, vers le début de son existence, on peut observer des galaxies très lointaines, car du fait de l'expansion de l'univers, la lumière que nous en recevons est tellement décalée vers le rouge qu'elle se trouve en fait dans l'infrarouge. Et avec un dispositif appelé coronographe, permettant de masquer précisément la lumière provenant d'étoiles proches, il devrait permettre d'observer les exoplanètes qui orbitent autour de ces étoiles et peut-être de mieux connaître la composition de leur atmosphère. Par exemple, y détecter la présence de vapeurs d'eau, comme viennent de le faire deux équipes universitaires, l'une à Londres, l'autre à Toronto, sur K2-18b, une exoplanète située à plus de 110 années-lumière de la Terre. Bien entendu, la recherche d'eau participe à la recherche de vie ailleurs dans l'univers. Le très large champ de ce télescope lui permettra de cartographier en infrarouge, dans un temps raisonnable, tout le ciel. À titre de comparaison, Hubble, en presque 30 ans d'activité, n'a même pas photographié un millième de l'espace autour de nous. Le lancement de WFIRST est actuellement prévu en 2025. Et pour finir, les missions habitées, pour lesquelles, sous l'impulsion du président Trump, la NASA consacre une part importante de son budget à une future mission lunaire. Mais Thomas Zurbuchen doit admettre que pour soutenir une présence durable sur la Lune, l'argent public du contribuable ne suffira pas et qu'il faudra s'appuyer sur des capitaux privés. C'est le New Space, dont on a déjà parlé plusieurs fois ici, avec à l'horizon une exploitation des ressources spatiales, par exemple sous forme d'activités minières sur la Lune, où on peut trouver des substances très rares sur Terre, comme par exemple l'hélium-3, qui est peut-être le futur pétrole du XXIe siècle, si on en croit les experts de la fusion nucléaire.
Alors toujours l'actualité, la découverte d'une visiteuse venue de très loin.
Alors que les astronomes amateurs trouvent de plus en plus rarement des comètes, qui sont détectées par les systèmes de surveillance automatique du ciel, Gennady Borisov, je suppose que ça se prononce comme ça, a eu beaucoup de chance en photographiant un petit point nébuleux depuis la Crimée avec un télescope de 65 cm, donc déjà assez conséquent pour un amateur sans être exceptionnel. Et il était loin de prévoir la portée de sa découverte, car sa comète C2019Q4 est tout à fait exceptionnelle. Le calcul de sa trajectoire, qui s'est révélé être une hyperbole, montre qu'elle pourrait provenir de l'extérieur du système solaire, ce qui reste à confirmer quand une observation plus longue permettra des calculs plus précis. C'est donc peut-être une voyageuse interstellaire venant d'un autre système planétaire et qui a probablement voyagé pendant des dizaines de milliers d'années dans la galaxie avant de s'approcher de notre Soleil. Les comètes qui circulent dans le système solaire proviennent généralement de deux sources, soit la ceinture de Kuiper, un ensemble de petits corps aux orbites situés un peu au-delà de la planète Neptune, environ 30 à 50 fois plus loin du Soleil que la Terre, soit du nuage de Oort situé, lui, beaucoup plus loin, de 40 à 150 000 fois la distance Terre-Soleil. Quand elles adoptent une orbite elliptique qui les fait repasser périodiquement dans le voisinage du Soleil et donc de la Terre, les premières ont des périodes allant de quelques années à quelques dizaines d'années, comme la fameuse comète de Halley, alors que les secondes se trouvent souvent sur des trajectoires paraboliques et ne font qu'un seul passage, ou suivent des ellipses tellement allongées que leur période est infiniment plus longue, comme la grande comète de 1910, dont on estime qu'elle pourrait revenir dans environ 4 millions d'années. Mais C2019Q4 pourrait provenir de beaucoup plus loin encore, d'un autre système stellaire, donc à plusieurs années-lumière, l'étoile la plus proche de nous étant à plus de 4 années-lumière. Par comparaison, le nuage de Oort n'est qu'à environ une année-lumière du Soleil. Cela nous rappelle un autre visiteur venu de loin dont nous avions parlé ici, Oumuamua, un astéroïde interstellaire découvert en octobre 2017. Malheureusement, après son passage au périhélie, c'est-à-dire au plus proche du Soleil dans sa trajectoire, alors qu'il était déjà en train de nous quitter à grande vitesse, donc avec très peu de temps pour l'étudier et à une très grande distance. On avait pourtant appris des choses troublantes à son sujet, comme le fait que son passage au voisinage du Soleil, à environ un quart de la distance Terre-Soleil, donc plutôt près, lui avait permis d'accélérer, comme nous le faisons avec nos sondes spatiales, en les faisant frôler des planètes comme Mars ou Vénus pour les propulser plus vite vers des objets plus éloignés comme Jupiter ou Saturne, une technique appelée fronde gravitationnelle. Sa forme aussi était très inhabituelle, car tout en longueur, la mesure de sa réflexion de la lumière solaire par sa face la plus petite et sa plus grande pendant sa rotation étant dans une proportion d'environ 1 à 10, ce qui serait à peu près la silhouette d'une baguette de pain. Et cerise sur le gâteau, on s'est aperçu qu'il avait dévié par rapport à sa trajectoire prévue, ce qui pourrait s'expliquer s'il s'agissait d'une comète qui a dégazé en s'échauffant près du Soleil, ce dégazage ayant exercé une poussée provoquant sa modification de trajectoire. Il a donc été reclassé comme comète d'origine extrasolaire. Ces éléments sont cependant si troublants que certains considèrent qu'il aurait pu s'agir d'un engin interstellaire ayant utilisé le Soleil pour accélérer son voyage. Une analogie étrange avec Rama, vaisseau spatial décrit dans le roman « Rendez-vous avec Rama », publié en 1973 par Arthur C. Clarke, le célèbre auteur de « 2001, l'Odyssée de l'espace » mis en image par Stanley Kubrick. Mais contrairement au roman, aucun vaisseau spatial terrien n'était en mesure d'aller à la rencontre de Oumuamua, qui n'a jamais été qu'un petit point brillant se déplaçant sur le fond de ciel étoilé, même sur les images produites par les plus grands observatoires. Avec ces 2019 Q4, nous disposerons d'un peu plus de temps pour étudier la visiteuse, car d'après ce que j'ai lu, elle serait observable jusqu'à la fin de l'année prochaine. Sans doute pour les très grands télescopes ou les télescopes spatiaux, car jusqu'à présent, je n'ai pas pu encore savoir si elle deviendrait visible dans des petits télescopes d'amateurs lors des prochains mois, ce qui en ferait une cible de choix pour les astronomes. Donc on reparlera probablement de cette comète exceptionnelle dans des prochaines chroniques.
Allez, deuxième sujet et thème de votre chronique. Alors, vous allez nous parler des saisons.
Oui, avec l'équinoxe d'automne de lundi, le 23 septembre, à 9h50, si on veut être précis, j'ai pensé que le thème des saisons était d'actualité, même si c'est un marronnier, comme on dit dans les médias, que nous avons déjà évoqué deux fois lors des cinq dernières années. Mais je crois qu'il y a des connaissances fondamentales à répéter de temps en temps pour qu'elles deviennent familières à nos auditeurs, comme les bases de la mécanique céleste, donc des mouvements de notre planète, la Terre. Pour commencer, on peut tout de suite tordre le cou à une idée complètement erronée, stipulant que les saisons seront en rapport avec la distance Terre-Soleil. Comme l'orbite de la Terre autour du Soleil est une ellipse, comme pour toutes les planètes, ainsi que nous le dit la première loi de Kepler, on pourrait croire que l'hiver, ou période froide de l'année, correspondrait à la partie de l'orbite où nous sommes les plus éloignés du Soleil, et à l'inverse, l'été ou période chaude, quand nous en sommes au plus près. Cela ne résiste pas à l'examen d'éléments très simples, comme le fait que le passage de la Terre au plus près du Soleil se déroule début janvier, alors que nous sommes en plein hiver, et que les saisons sont inversées entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Donc selon où l'on se trouve sur Terre, on peut être le même jour, soit en été, soit en hiver, alors que nous sommes tous à la même distance du Soleil. La distance au Soleil n'a donc rien à voir avec les saisons, et d'ailleurs l'ellipse parcourue par la Terre est tellement circulaire, comme pour toutes les planètes, que la variation de distance est très faible, sans aucun rapport avec les différences de température au fil des saisons. Tout est en fait une question d'inclinaison de la Terre par rapport à son orbite autour du Soleil, ce que l'on peut tous voir très facilement en regardant un globe terrestre dont l'axe de rotation nord-sud est toujours représenté, incliné d'environ 23,5 degrés par rapport à la verticale. Essayons de nous représenter cette configuration dans le ciel, comme si nous étions dehors par une belle nuit étoilée. Le pôle nord nous est indiqué par l'étoile polaire, à environ 45 degrés au-dessus de l'horizon. Le pôle sud, invisible car sous la Terre pour nous, est à l'opposé. Comme notre œil n'arrive pas à distinguer les distances variables des étoiles par rapport à nous, nous les imaginons comme placées sur une grande sphère, la fameuse voûte céleste. Si on la coupe en deux à égale distance des pôles, cela dessine un grand cercle qui est l'équateur céleste, exactement comme l'équateur terrestre coupe la Terre en deux à égale distance de ses deux pôles. D'ailleurs, on peut voir l'équateur céleste comme la projection de l'équateur terrestre dans le ciel. Cet équateur touche l'horizon à deux points bien particuliers, qui sont l'est et l'ouest. Lorsque c'est l'équinoxe, comme lundi, le Soleil se situe pile sur l'équateur céleste. Et donc ce jour-là, ou plus exactement ces deux jours-là, puisqu'il y a un équinoxe d'automne autour du 22 septembre et un de printemps autour du 21 mars, le Soleil se lève pile à l'est et se couche pile à l'ouest. Autre particularité des équinoxes, la durée du jour et celle de la nuit sont égales, chacune à 12 heures, partout sur Terre. Ce que veut dire d'ailleurs le mot équinoxe, c'est-à-dire nuit égale en latin. En réalité, il y a 12 heures entre le lever et le coucher du Soleil. Mais ce n'est pas réellement la durée du jour si on tient compte de l'aube et du crépuscule, ces moments avant le lever ou après le coucher où il ne fait pas encore vraiment nuit. Sous notre latitude, la vraie nuit noire n'a duré qu'environ 10 heures lundi. Cette position du Soleil pile sur l'équateur est très particulière, car à cause de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, sa trajectoire apparente dans le ciel en un an, un grand cercle qu'on nomme écliptique, car c'est là que se produisent les éclipses, est inclinée d'environ 23,5 degrés par rapport à cet équateur. Donc pendant la moitié de l'année, le Soleil se situe au-dessus de l'équateur, et c'est la période chaude, car il se lève et se couche plus au nord, et reste donc plus longtemps levé, et monte plus haut dans le ciel, les deux facteurs contribuant à réchauffer l'hémisphère nord de la Terre. Et l'autre moitié de l'année, qui vient tout juste de commencer, il est sous l'équateur, se lève et se couche plus au sud, donc reste moins longtemps dans le ciel et il monte moins haut, deux facteurs contribuant à refroidir notre hémisphère. Et pour les terriens de l'hémisphère sud, qui pour faire simple ont la tête en bas et les pieds en haut par rapport à nous, la situation est inversée. Le Soleil venant par exemple de passer au-dessus de l'équateur pour eux, et donc les saisons sont inversées. C'est aussi simple que cela.
Alors Michel, vous ne définissez que deux périodes dans l'année, mais il y a en réalité quatre saisons, non ?
Oui. Alors les points extrêmes de la position du Soleil au-dessus ou au-dessous de l'équateur sont appelés solstices. Un en été autour du 21 juin et l'autre en hiver autour du 21 décembre. Les dates des solstices et des équinoxes pouvant légèrement varier d'une année à l'autre en fonction des années bissextiles. Le mot solstice vient du latin signifiant « le soleil s'arrête » et s'explique facilement. Si on regardait chaque soir le coucher du soleil en prenant des repères à l'horizon, à partir de lundi où c'était exactement à l'ouest, on le verrait dériver jour après jour vers le sud jusqu'au solstice d'hiver où il arrête cette dérive vers le sud pour repartir dans l'autre sens et revenir à l'ouest pour l'équinoxe de printemps. Et inversement pour la dérive vers le nord jusqu'au solstice d'été. Même s'il n'existe vraiment qu'une période chaude et une période froide dans l'année, ce qui est bien visible dans les zones plus proches de l'équateur où les variations saisonnières sont moins marquées, on a défini conventionnellement quatre saisons, perceptibles surtout dans les zones tempérées comme la France, avec l'automne allant de l'équinoxe d'automne jusqu'au solstice d'hiver, puis l'hiver jusqu'à l'équinoxe de printemps, le printemps jusqu'au solstice d'été et l'été jusqu'à l'équinoxe d'automne. Ces différences saisonnières sont d'autant plus marquées qu'on se trouve à grande latitude dans l'hémisphère nord ou sud, c'est-à-dire plus éloigné de l'équateur. On sait tous que les hivers sont beaucoup plus rudes dans les régions polaires, où parfois le soleil ne se lève même plus pendant des jours. Tout simplement parce que l'équateur céleste étant presque confondu avec l'horizon, ce qui est exactement le cas au pôle nord, le soleil situé en dessous ne parvient plus à se lever, et à l'inverse en été, il ne se couche plus. La limite où commence ce phénomène, appelé souvent soleil de minuit, est le cercle polaire.
Et y a-t-il des saisons sur les autres planètes ?
Alors oui, si leur axe de rotation est incliné par rapport à leur orbite, comme pour la Terre. Mais les effets sont assez différents selon la nature de ces planètes. Pour les quatre géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, comme leur distance au Soleil est beaucoup plus grande, donc qu'elles sont très peu chauffées par le Soleil, et que leur période est beaucoup plus longue, des dizaines d'années, les variations saisonnières sont beaucoup plus faibles et lentes. Pour les planètes intérieures, c'est aussi très différent, car Mercure n'ayant pas d'atmosphère, donc pas d'enveloppe gazeuse pour réguler sa température au sol, les variations quotidiennes y sont déjà énormes, entre les zones ensoleillées à environ 400 degrés, ou à l'ombre de l'ordre de moins 180 degrés. Vénus, avec son atmosphère épaisse, constituée principalement de CO2, provoquant un effet de serre catastrophique, présente à l'inverse très peu de variations, avec une température infernale de l'ordre de 450 degrés partout. La planète du système solaire qui aurait le plus de similitudes avec la Terre est bien sûr Mars, qui a une inclinaison assez comparable à la nôtre, d'environ 25 degrés, et une durée du jour similaire d'environ 25 heures. Mais il y a deux différences importantes. Comme la période de révolution de Mars est environ le double de celle de la Terre, l'année martienne durant environ 2 ans terrestres, les saisons sont donc aussi 2 fois plus longues. L'autre grande différence est l'atmosphère martienne, beaucoup plus tenue que celle de la Terre, hein, même pas 1/100 de la pression au sol, qui n'est pas en capacité de bien retenir la chaleur solaire et de réguler les températures. Comme en plus Mars est environ 50% plus loin du Soleil que la Terre, donc moins bien chauffé, et il y fait très froid. La température moyenne étant de l'ordre de moins 60 degrés. Mais il y a des variations saisonnières, et en été, près de l'équateur, en milieu de journée, la température de surface peut dépasser les 30 degrés, mais elle redescendra très largement en dessous de zéro la nuit suivante. Ces saisons sont à l'origine de grandes tempêtes de sable qui obscurcissent périodiquement la surface martienne, ayant fait croire au XIXe siècle qu'il y avait une végétation à la surface avec des cycles saisonniers, concept qui s'est encore renforcé avec la découverte des prétendus canaux martiens par Schiaparelli puis Lowell, faisant imaginer la présence d'une civilisation ayant construit tout un système d'irrigation pour apporter l'eau des zones polaires vers des cultures implantées dans les zones équatoriales plus tempérées, d'où toute la mythologie des petits hommes verts inaugurée par l'apparition de la fameuse « Guerre des mondes » de H.G. Wells, publiée en 1898. Comme quoi, le cycle des saisons peut donner lieu à des interprétations imprévisibles lorsqu'il est observé de très loin.
Allez, on est toujours sur Eau de Radio 14.3, c'est la chronique de Michel Favret. Et là, vous allez nous parler du ciel du mois.
Alors, comme à chaque fois dans les dernières chroniques, je vais résumer cette partie en renvoyant plutôt les auditeurs vers la rubrique « Ciel du mois » de la section « Astronomie » de notre site web. Hein, je le répète, www.constellationsetgalaxies.org. Car ça leur permettra de voir les cartes du ciel correspondantes et avoir plus de détails. Il est difficile de montrer des cartes à la radio. Tout le monde peut constater que la durée du jour a diminué tout au long de l'été et de plus en plus vite quand on est proche de l'équinoxe d'automne, et donc la nuit survient de plus en plus tôt. Ces jours-ci, le soleil se couche un peu avant 20h et la nuit survient vers 21h. Mais il faut encore attendre jusqu'à 21h30 environ pour un ciel bien noir. À la fin octobre, la journée sera nettement plus courte, mais nous serons aussi repassés à l'heure d'hiver pendant la nuit du samedi 26 au dimanche 27, et les horaires seront donc totalement différents. Le coucher sera un peu avant 18h, la nuit viendra vers 19h et le ciel bien noir vers 19h30. Bien que nous soyons officiellement en automne, en début de nuit, c'est toujours le ciel de l'été qui est au sud avec le triangle de l'été, formé des trois étoiles brillantes Altaïr, Vega et Deneb, bien haut dans le ciel, surmontant les deux autres constellations typiques de la saison situées plus près de l'horizon, le Sagittaire, reconnaissable à un motif en forme de théière, accompagné de Saturne, et le Scorpion déjà en train de se coucher avec son étoile orangée Antarès, appelée ainsi car elle ressemble à la planète Mars, Arès en anglais, en grec, pardon, accompagné de la très brillante Jupiter. Si on est sous un ciel bien noir, loin de la pollution lumineuse des villes, on peut voir la Voie lactée se dresser presque verticalement du Sagittaire jusqu'à Deneb. Vers l'est se lève déjà la constellation typique du ciel d'automne, Pégase, formant un motif carré, prolongé d'Andromède, dans laquelle on peut déceler la galaxie la plus proche de nous, objet le plus lointain perceptible à l'œil nu et facile à observer aux jumelles. Fin octobre, en raison du raccourcissement des jours, la situation sera assez analogue, avec un décalage global vers l'ouest, le Scorpion étant déjà couché, le triangle d'été ayant déjà dépassé le sud, et Pégase plus haut dans le ciel, laissant apparaître toutes les autres constellations de l'automne, Poissons, Baleines, Triangle et Bélier par exemple. Côté planète, vers le sud-ouest, on peut actuellement voir la brillante Jupiter, déjà en train de descendre vers l'ouest où elle se couche vers 23h. Mais ce sera dès 20h fin octobre. Fin octobre, c'est toujours en horaire d'hiver que je parle. Il faut donc en profiter maintenant pour l'observer dans des conditions pas trop mauvaises, en début de nuit quand elle est encore assez haute dans le ciel. Je rappelle aux auditeurs qu'avec de simples jumelles, il est possible d'apercevoir jusqu'à 4 satellites formant comme un alignement de petites étoiles autour de la planète géante et dont la position varie en quelques dizaines de minutes, ce qu'on peut voir dans une lunette ou un télescope. Pratiquement plein sud, on peut aussi apercevoir Saturne, qui reste dans le ciel jusque vers 1h du matin, mais ce sera seulement 22h fin octobre. Inutile de la regarder dans une paire de jumelles, car on ne peut pas voir ses anneaux, qui nécessitent un grossissement plus fort, par exemple avec un petit télescope. C'est donc l'occasion rêvée de l'observer dans les télescopes d'un club astro près de chez vous, car début octobre, il y a deux manifestations nationales auxquelles ils participeront certainement. La fête de la science, pendant la semaine du samedi 5 au dimanche 13 octobre, et le jour de la nuit, le samedi 12 octobre, opération nationale organisée par un collectif d'associations pour sensibiliser le public au problème de la pollution lumineuse et au cours de laquelle on demande aux villes d'éteindre l'éclairage pour apprécier la différence. C'est souvent l'occasion d'observations publiques au télescope en pleine agglomération, comme je le fais avec mon club astro dans mon village. D'ailleurs, j'ai pas eu beaucoup de temps, mais j'ai vérifié ce matin sur Internet que nos amis d'Astro Gironde 33, AG33, organisaient aussi des observations le 5 et le 12 octobre. Malheureusement, cette année, nous ne serons pas très gâtés, car la date habituelle, le deuxième samedi d'octobre, tombe juste la veille de la pleine lune, source d'une pollution lumineuse que malheureusement, on ne peut pas éteindre. Pour ces deux manifestations, nos éditeurs peuvent se référer aux sites nationaux pour connaître les animations proches de chez eux ou directement sur le site des clubs astro voisins qu'on trouve facilement sur le site de l'AFA, l'Association française d'astronomie. Pour en revenir aux planètes, on pourra apercevoir Mercure dans le ciel crépusculaire lorsqu'il sera assez écarté du Soleil dans le ciel autour du 20 octobre, date à laquelle Vénus fera aussi son retour dans le ciel du soir après des mois d'absence, mais ce sera encore plus net en novembre. Il y aura plusieurs conjonctions de la Lune avec les planètes, en commençant par le jeudi 3 octobre, où le gros croissant de Lune sera très proche de Jupiter, moins que la largeur d'un doigt à bras tendu, et le lendemain sera à mi-chemin entre Jupiter et Saturne, formant un bel alignement permettant de matérialiser une portion de l'écliptique dont j'ai parlé à propos des saisons, avant de rejoindre au premier quartier Saturne le samedi 5, toujours à une distance inférieure à un doigt à bras tendu. Et enfin, le mardi 29 octobre, un très fin croissant surplombera à la fois Mercure et Vénus au crépuscule. Notre prochaine chronique devrait être le lendemain, mercredi 30 octobre, mais d'ici là, il ne faudra pas oublier de reculer d'une heure les montres et horloges le dimanche précédent pour passer à l'horaire d'hiver qui, de point de vue astronomique, est plus naturel, car plus proche de l'heure solaire. Je rappelle que ces changements d'heure d'été ou d'hiver n'ont rien d'un phénomène astronomique, comme les solstices ou les équinoxes, mais correspondent juste à un dispositif administratif visant à économiser l'énergie en profitant en été de soirées plus longues.
Voilà, merci Michel pour cette chronique. Alors avant de se retrouver le mois prochain, redites-nous quelques mots sur l'association Constellations et Galaxies.
Alors une petite association par le nombre de membres qui est basée en Dordogne, près de Mussidan, à Saint-Médard-de-Mussidan pour être précis, et dont l'une des activités principales dans le domaine de la diffusion des connaissances scientifiques et techniques, et plus particulièrement dans le domaine de l'astronomie et de l'astronautique, c'est le planétarium itinérant qui se rend sur site. Alors souvent dans l'année, c'est plutôt dans les établissements scolaires, écoles, collèges, lycées, pour, sous une coupole gonflable équipée d'un projecteur spécial, pouvoir montrer le ciel nocturne aux élèves et leur expliquer un petit peu les constellations, ce que sont les étoiles, les planètes, un petit peu les mouvements dont j'ai un petit peu parlé dans la chronique à propos des saisons. Voilà. Il y a aussi d'autres formes d'ateliers. Et depuis l'année dernière, on a démarré un atelier qui est différent dans le domaine de la robotique, puisque la région Nouvelle-Aquitaine avait fait un appel d'offres pour des animations dans le domaine de la robotique et de l'intelligence artificielle.
Très bien. Constellations et Galaxies, pour avoir un petit peu plus d'infos, bien sûr, le site, vous l'avez évoqué pendant la chronique. On se retrouve le 30 octobre pour la date, je vous fais confiance.
Normalement, oui.
Voilà.
Sauf si j'ai l'idée d'aller à l'étranger, mais pour le moment, c'est pas prévu.
Voilà, mais ça, on le saura, bien sûr, au moment opportun. En tout cas, merci Michel pour ce travail empreint de passion, certes, mais c'est quand même du travail. Donc, félicitations et bravo. On se retrouve le mois prochain. Allez, regardez, juste une petite pause musicale. À moins que vous vouliez remettre le générique. Si, allez-y. Je vous en prie, Nicolas. Allez-y. Et juste en suivant, je reprendrai la parole pour parler du groupe que l'on va entendre.
La Terre, elle brille, en fait. Elle est d'un bleu brillant. Elle luit.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
Dans des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb qui découvrons des terres nouvelles qui jusqu'à présent n'étaient que des petits points de lumière dans le ciel, d'une part, et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde, et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars. Would be the greatest adventure ever.
Voilà, un générique réalisé par Nicolas que vous retrouverez chaque mois, bien quand Michel viendra présenter sa chronique.